Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, alors, en ce tout début de rentrée scolaire, je vous espère en bonne forme. Si vous avez des enfants, je leur souhaite d'avoir passé une bonne rentrée, d'être dans une classe où ils vont s'épanouir, avec des instituteurs, institutrices ou professeurs qui vont leur donner envie d'apprendre, de développer leur curiosité, qu'ils vont être vraiment heureux cette année. Et donc vous aussi, je vous souhaite à vous d'avoir retrouvé vos marques après cette période estivale. Qu'on parte ou pas en vacances, ces deux mois d'été ont toujours un goût un peu particulier. On ressent une forme de légèreté. Alors, s'il est une chose qui ne change pas, qu'on soit en hiver ou en été, c'est la misère. La pauvreté qui frappe de plein fouet notre pays, l'Europe. D'une manière générale, bien sûr, tous les pays européens ne sont pas touchés de la même manière. Et bien sûr, au-delà des frontières de l'Europe, il y a aussi tous ces pays en proie à la guerre, à des famines redoutables. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler particulièrement d'un sujet qui me touche, c'est celui de l'aide alimentaire. Alors hier, j'ai écrit une chronique que j'ai publiée sur mon blog Hors Cadre, et en fait, c'est cette chronique que je voudrais vous lire ce matin, pour que vous n'oubliez pas de participer aux collectes qui vont commencer, elles vont arriver assez vite et elles sont très très importantes puisqu'elles permettent aux associations caritatives de pouvoir répondre à l'offre qui explose. Toutes les statistiques le montrent, il y a de plus en plus de personnes depuis 2008 qui ont recours à l'aide alimentaire. Voilà, donc je vais vous lire ce texte. Alors, je suis désolée, c'est pas un texte léger, c'est un texte dur, mais on ne peut pas fermer nos yeux, fermer nos cœurs, et surtout comprendre qu'on peut dégringoler très très vite. Alors, les gens qui vivent en Amérique du Nord le savent encore mieux que nous. En une semaine, dans un pays comme aux États-Unis, on peut avoir perdu sa maison, on peut se retrouver à la rue, et c'est très difficile. Alors voici ce texte. Quand notre maman faisait réexpédier son courrier sur le plateau tandis qu'elle prenait ses quartiers d'été dans le Gard rhodanien, j'étais toujours impressionnée par la quantité de lettres qu'elle recevait émanant d'associations. Je suis incapable de les citer toutes, mais je me rappelle des apprentis d'Auteuil, de la Fondation Abbé Pierre du Secours catholique, de la Croix-Rouge, la Fondation Raoul Follereau, Médecins du Monde, des Petits Frères des Pauvres, la Fondation de France, la Fondation 30 millions d'amis. Elle donnait un peu d'argent à chacune d'entre elles. D'année en année, ses revenus diminuant, elle ne peut plus les soutenir comme par le passé. Il m'est arrivé d'envoyer de l'argent à la Croix-Rouge, mais le plus souvent, je participe aux collectes, organisées par le Secours Populaire ou les Restos du Cœur. Ces derniers mois, les collectes ont été plus nombreuses, attestant des difficultés rencontrées par les associations pour faire face à la demande grandissante de personnes en situation de fragilité. Le 27 février de cette année, une étude menée par le CSA annonçait que plus d'un tiers des personnes ayant eu recours aux banques alimentaires avaient commencé à le faire voici moins de 6 mois. Dans toute l'Europe, elles avaient accueilli en 2022 un nombre record de bénéficiaires. L'étude estimait qu'en France, 2,4 millions de personnes dépendaient de l'aide alimentaire, mais que certainement elles étaient en fait 5 millions. 27% sont des chômeurs, 17% des retraités, et 14% des personnes en situation de handicap, d'invalidité ou de maladie longue durée. de plus en plus de travailleurs pauvres et d'étudiants viennent grossir les effectifs. Les mères monoparentales sont également touchées de plus en plus par la précarité. Depuis 2008, les crises économiques et sanitaires ont fragilisé notre société. Avec le drame du conflit en Ukraine, le prix de l'énergie a flambé, comme celui des loyers et des produits alimentaires. Selon Le Parisien, le même panier de 31 produits de grande consommation a augmenté de 15% en un an. Les trois quarts des Français ont été amenés à repenser leurs habitudes. Le cabinet d'une thérapeute exerçant en zone rurale et non loin d'une ville très violentée lors des émeutes de juin est malheureusement un baromètre remarquable s'agissant de la société. Le pouvoir d'achat a beaucoup diminué, si bien que tout ce qui pouvait sembler superficiel est passé à l'as. Se faire accompagner quand on est moralement fragile ne devrait jamais être considéré comme un luxe. Les médecins confrontés à une patientèle fragile financièrement ne lui offrent plus, comme par le passé, de consulter un thérapeute en première intention. Le recours aux antidépresseurs et aux anxiolytiques explose, notamment s'agissant de patients très jeunes. Depuis le Covid, je n'ai jamais hésité à revoir à la baisse les tarifs de mes séances, qui n'ont quasiment jamais augmenté depuis 2010. Les associations donnent à tous les bénéficiaires, quand les collectivités, elles, réservent l'aide aux personnes en situation régulière. Notre fille cadette, avec l'aumônerie, est venue en renfort d'équipe de bénévoles des Restos du Cœur. Elle n'était pas en contact direct avec les bénéficiaires, mais préparait les lots en amont. Elle avait été très triste de reconnaître dans la file d'attente la maman de l'une de ses camarades de classe, une maman qui l'avait si souvent accueillie chez elle et se montrait toujours si généreuse. Cette maman travaillait, tout en élevant seule ses deux enfants. Elle était éloignée de sa famille. Elle avait été obligée de quitter un mari violent. Marie qui, bien sûr, ne la soutenait pas du tout financièrement. Le cri d'alarme lancé par le président des Restos du Cœur, suivi de celui du Secours Populaire, a été entendu. La famille Arnaud, dans son immense générosité, a annoncé en grande pompe qu'elle débloquait 10 millions d'euros pour les Restos du Cœur. Les deux fils de Bernard sont allés signer le chèque sous les flashs des journalistes. La famille s'est empressée de préciser que cet argent ne donnerait pas lieu à une défiscalisation. Les Arnaud, comme tous les grands capitaines d'industrie, sont des spécialistes de la défiscalisation, notamment par le biais de fondations culturelles. Dans la foulée, l'Alliance fédérale du Crédit Mutuel a aussi fait savoir qu'elle versait, via sa fondation, une somme de 7,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et de 5 millions aux banques alimentaires, après avoir déjà versé 5 millions au Resto du Cœur au mois de mars. Je ne me souviens pas avoir entendu parler de ce don. Ce qui montre que le Crédit Mutuel n'avait pas ressenti la nécessité de communiquer autour de cette somme versée au Resto du Cœur. En début d'année, Crédit Mutuel Alliance Fédérale avait annoncé créer un dividende sociétal consistant à affecter chaque année 15% de son résultat net au financement de projets de transformation environnementale et solidaire. Le gouvernement a annoncé qu'il allait débloquer une aide de 15 millions d'euros pour aider les associations à sortir de leurs difficultés. La France n'est plus cet incroyable État-providence qui, dès 1853, faisait adopter par voie de décret le principe de congé payé pour les fonctionnaires. Au micro de France Culture, Bénédicte Bonzi, doctorante et anthropologue à l'EHESS, expliquait que l'aide alimentaire ne répondait plus à ses missions initiales, en rappelant les propos de Coluche pour qui il n'était pas normal que dans le pays de la bouffe, il n'y ait pas assez à manger pour tout le monde. L'État a délégué le soin apporté aux plus fragiles à des associations. Le bénévolat est un modèle économique à bas coût. Si l'État devait remplacer les milliers de bénévoles qui se dépensent sans compter sur le terrain, cela lui coûterait très très cher. Je précise que Bénédicte Bonzi a publié un livre qui s'appelle « La France qui a faim ». Laurence Petit, déléguée générale de France Générosité, expliquait que les associations avaient perdu 11,2% de donateurs en 10 ans. La générosité repose souvent sur celles et ceux qui font partie de ces classes moyennes, qui se paupérisent. Des femmes et des hommes qui ont conscience que leur propre situation est fragile. On donne plus spontanément quand on se sent proche des bénéficiaires, quand on ne met plus jamais les pieds dans le métro, dans le RER, qu'on passe d'un quartier chic un bureau de Neuilly ou à Levallois en voiture, on est par la force des choses coupé des réalités de la société dans laquelle on vit. L'un de mes amis d'enfance, dont les parents n'ont jamais eu de problèmes financiers, qui passait ses vacances à Val d'Isère en hiver et à Cannes en été, a mené sa brillante carrière dans une grande banque d'affaires et vit depuis plus de 25 ans en Asie et au Moyen-Orient. Forcément, il ne sait plus objectivement ce qu'est la vie d'un Français ordinaire. Et en fait, je ne sais pas s'il l'a jamais su de la même manière que ses amis proches, qui avaient tous et ont tous la même vie. C'est un homme que j'aime énormément, il est solaire, il est toujours enclin à aider ceux qui pourraient en avoir besoin, il rend grâce de tous les moments de bonheur qui sont les siens. Mais ce que je sais, c'est que si nos parents n'avaient pas été amis avant notre naissance, nos chances de nous rencontrer après que j'ai quitté Paris auraient été nulles. En 2004, les petits dons de 0 à 150 euros représentaient 73% de la générosité des Français. Maintenant, ils sont passés à 41%. Laurence Petit a lancé en ce mois de septembre un appel aux Français. La période qui s'ouvre est cruciale pour la générosité. 41% des dons se font en octobre, en novembre et en décembre. Elle a donc demandé à ceux qui le pouvaient d'exercer cette solidarité. France Générosité a créé un site qui s'appelle infodon.fr qui référence l'ensemble des organisations et des causes. Chaque Français peut trouver à qui donner sur ce site. France Générosité a fait des propositions assez innovantes pour que les entreprises puissent s'engager aux côtés de leurs salariés et ainsi défendre une proposition de don, de congés payés et de RTT au profit des associations caritatives. Alors j'ai un mari qui pendant de longues années s'est démené à la tête d'une association visant à amorcer une transformation dans le domaine climatique notamment. Et j'ai vu comment, avec son associé Nicolas, pendant des années, ils ont bataillé pour répondre à des appels d'offres, pour débloquer des fonds, que souvent l'argent débloqué ne pourrait l'être que parce qu'il était conditionné au fait d'avoir une autre somme d'argent, puisqu'en fait tout le monde se couvre, tout le monde se protège. Et je l'ai vu passer par des moments très difficiles. Je les ai vus, Nicolas et lui, à plusieurs reprises avoir envie de tout envoyer balader. Faire travailler des bénévoles n'est pas simple aussi. J'ai constaté que certaines personnes ne s'engageaient que pour des périodes très courtes parce que ça leur permettait d'ajouter une ligne sympa sur leur CV et de faire valoir un engagement citoyen ou un intérêt pour l'environnement, mais à des fins en fait strictement personnelles. Et malheureusement, Stéphane et Nicolas ont été obligés de se licencier. Et là, je les vois encore continuer parce que l'association existe, elle, d'essayer encore de trouver des solutions, mais c'est très difficile. Voilà, donc je sais ce que c'est le milieu associatif. Je me suis moi-même investie à plusieurs reprises. J'ai vu aussi comment c'était de travailler avec des bénévoles. Je sais ce que c'est que de chercher de l'argent. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est indispensable d'aider les associations caritatives. Les personnes fragiles sont aussi souvent celles qui sont mal logées et auront un accès rendu difficile aux soins. Quand on a quitté l'école tôt, que tous les mois on a découvert, forcément c'est pas évident de se nourrir bien. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on aura tendance, sans le savoir, sans s'en rendre compte, à choisir des produits ultra transformés, qui sont des bombes à cancer, à diabète et à obésité. C'est pour ça que l'école, plus que jamais, a un rôle très important à jouer pour expliquer aux enfants comment se bien nourrir, quels aliments privilégier. Dans nos petites écoles, il y a un potager, donc les enfants peuvent aussi aller recueillir des légumes, cueillir des cerises dans le cerisier, voilà. Tout ça, c'est très très important, ça fait partie du rôle essentiel que l'école doit pouvoir jouer en plus de tous les autres rôles qui lui sont désormais impartis. Avant la naissance des géants de l'agroalimentaire et de la malbouffe, dans toutes les familles, on se nourrissait simplement avec des produits de saison. À la campagne, comme dans les villes, on avait son petit potager. On n'achetait pas des plats tout faits ou surgelés, on ne buvait pas de soda. Au goûter à l'école, quand nous allions en études, on nous donnait un morceau de pain avec une barre de chocolat noir ou une pâte de fruits. Les géants de l'agroalimentaire travaillent certainement main dans la main avec certaines entreprises pharmaceutiques. Ni les uns ni les autres n'ont intérêt à ce que l'humanité se nourrisse sainement et que le nombre d'obèses et du diabétique diminue. Pour s'en convaincre, il suffit de lire que le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, spécialiste du diabète, lance outre-Manche le Wegovy, un goût fin dérivé de son antidiabétique Ozempic. Son cours en bourse a bondi de 39% depuis le début de l'année, en faisant la première capitalisation européenne, tenez-vous bien, devant LVMH. L'Ozempic, amplement détourné de son usage premier pour favoriser la perte de poids, semble mettre ses pas avec légèreté dans ceux du Mediator. Donc j'ai lu d'ailleurs que beaucoup d'agences européennes, l'Agence européenne du médicament, planchaient déjà sur les effets secondaires de ce médicament, dont l'usage dévié peut potentiellement être très dangereux, notamment sur un plan psychiatrique. La Fondation Abbé Pierre, partenaire de l'Observatoire national de la précarité énergétique, avait présenté le 1er février de cette année son 28e rapport annuel à la Maison de la Mutualité à Paris. L'occasion de présenter les chiffres alarmants du sans-abrisme et du mal-logement en France en décryptant tous les enjeux des politiques publiques dédiées au logement. La question du genre a fait l'objet d'une étude particulière, les femmes étant une population particulièrement confrontée au cours de leur vie à la précarité énergétique. Au total, la Fondation estime à 4,15 millions le nombre de personnes mal logées en France. Hélène Denise, chargée de plaidoyer et mobilisation à la Fondation Abbé Pierre, a insisté sur les résultats du rapport pour les 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. 670 000 rénovations énergétiques ont été effectuées grâce à MaPrimeRénov' en 2022, mais les foyers très modestes et ceux en grande précarité, premiers concernés par la précarité énergétique, sont ceux qui s'engageront le moins dans les rénovations globales et performantes. La Fondation appelle à une politique de rénovation plus inclusive pour pallier à des situations de plus en plus préoccupantes. La Fondation estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, soit 30 000 de plus que l'année précédente. Au total, 4,15 millions de personnes seraient mal logées, selon la Fondation. Elle comptabilise dans cette catégorie les personnes sans logement personnel, celles vivant dans un lieu trop petit pour elles, privées du confort de base, ou encore une large part des gens du voyage subissant de mauvaises conditions d'habitat. Le mal-logement, qui regroupe les situations comme la précarité énergétique, où les locataires avec des impayés concerneraient 12,1 millions de personnes, selon les calculs de la Fondation, soit plus d'un sixième de la population. En 2022, l'accélération de l'inflation a mis en difficulté les ménages modestes. Voici plusieurs années en hiver, je me rappelle avoir vu un couple, ses trois enfants et leur chien, sur des couvertures devant la librairie parisienne, l'écume des pages, qui se situe boulevard Saint-Germain et qui a la spécificité de fermer à minuit. Cette famille, quand je l'ai vue, je me suis dit qu'elle aurait pu être la nôtre. Et on devinait que cela faisait très peu de temps qu'ils étaient dans la rue. J'ai souvent pensé à eux. Il faut espérer que l'hiver à venir ne sera ni trop froid ni trop long. J'adore les hivers très froids et très secs. Mais à chaque fois, je pense à celles et à ceux qui n'ont plus ou pas de toit. Et en sont réduits à se couvrir de carton et à utiliser un chien pour ne pas mourir dans leur sommeil. En 2012, j'avais été très choquée par ce que vivait le peuple grec après la crise financière de 2008, et encore plus choquée qu'on me dise que c'était la faute des Grecs qui choisissaient des élus corrompus. La France avait alors acheminé de l'aide alimentaire. Notre fille aînée a eu la chance de voyager presque 15 jours dans les Cyclades avec son ami Julien. C'est sa mamie qui lui a offert ce voyage pour ses 20 ans. En 2012, voici ce que j'écrivais alors que la Grèce n'était pas devenue l'un des pays de l'Union européenne à accueillir sur son sol autant de migrants. En juin, le pays a décrété 3 jours de deuil national après qu'ait chaviré une embarcation contenant à son bord jusqu'à 750 personnes sans gilet de sauvetage, parmi lesquelles une centaine d'enfants. Les femmes et les enfants étaient enfermés dans la cale du vieux chalutier. Tous les passagers étaient partis de Tobrouk et devaient rejoindre les côtes italiennes. Ils étaient originaires d'Égypte, de Syrie et du Pakistan. Alors voici ce que j'écrivais en 2012. À cette époque, voilà, je continuais à, entre guillemets, à me protéger derrière l'emploi du il ou du elle. Nos enfants pouvaient encore avoir des numéros. Été 1984. Elle aura bientôt 15 ans. Hormis des séjours linguistiques en Allemagne, c'est son premier voyage sans les siens. Elle va séjourner 15 jours en Grèce avec un couple d'amis de ses parents et leurs trois filles. La Grèce, un pays qui l'a fait rêver depuis longtemps, un pays qui occupe une place de tout premier ordre dans cette famille, qui compte un remarquable helléniste et une grand-mère qui a eu l'immense privilège d'écouter depuis les gradins du théâtre antique d'Épidaure Maria Callas répéter Norma. Comme la plupart des adolescents de son âge, elle a adoré plonger dans les mythologies et découvrir les aventures extraordinaires des dieux de l'Olympe et de leur grande progéniture. Enfant, elle a été impressionnée par le département dédié au Louvre aux antiquités grecques, étrusques et romaines. Dans sa famille, où on aime autant le cinéma de Visconti ou de Costa Gavras que celui de Gérard Houry ou de Philippe de Broca, elle a ri du voyage de noces en Grèce, plein de rebondissements du commissaire de police, Lys Tancrel, Annie Girardot, et du professeur de grec, Antoine Lemercier, Philippe Noiret. C'est dans ce film, On a volé la cuisse de Jupiter, qu'elle découvre, pour la première fois, les images des monastères des météores. Elle a presque 15 ans et la Grèce est déjà inscrite en elle. Par ailleurs, sa mère, pour se moquer d'elle, pour moquer en fait son tempérament jusqu'au boutiste, la taxe d'Antigone. Si Athènes est son acropole la laisse de marbre, même au lever du soleil, elle est éblouie par le site du Cap Sounion. Et comme des billions de visiteurs avant elle, elle observe la signature de Lord Byron gravée dans l'une des colonnes du temple de Poséidon. En Grèce, passé et présent sont si étroitement imbriqués qu'elle ne devrait pas Elle ne serait pas surprise de voir surgir des eaux claires de la Méditerranée, le dieu de la mer armé de son trident, donné par les cyclopes. Elle traverse ses 15 jours de voyage comme s'il s'agissait d'un rêve éveillé. À Corinthe, elle se rappelle qu'en 147 avant Jésus-Christ, le sac de la ville par les Romains marque la fin de la Grèce libre. À Épidaure, devant le théâtre, elle imagine les concours disputés par les pèlerins en l'honneur du dieu médecin. À Tirinthe et à Mycène. Elle songe à Persée, qui aurait régné sur la première et fondé la seconde. À Olympie, debout au milieu du stade sous un soleil de plomb, elle ferme les yeux et entend les cris de la foule s'élever en direction d'un ciel sans nuages quand les athlètes disputaient les Jeux Olympiques. À Delphes, elle est surtout touchée par le regard incroyablement profond de l'Aurige auquel son grand-oncle a consacré un ouvrage. Le temps de la culture est fini, vient celui de la détente. Elle quitte le Péloponnèse et la région de l'Attique pour trois îles des Cyclades, Paros, Naxos et Antiparos. Après des bains de mer et des excursions à Dodane, l'ambiance est très détendue. Le soir venu à la terrasse des restaurants, des lampions éclairent les tables. Elle se régale pour la première fois de sa vie de brochettes d'espadon. Cela change de la moussaka, aussi bonne soit-elle. Les villages des Cyclades sont exactement comme sur les photos, des ruelles étroites pour se protéger de la brûlure du soleil, des façades dont la blancheur torture les yeux et des dômes bleus. C'est magique. À presque 15 ans, elle se met à rêver d'une maison sur une île grecque. Elle n'a encore lu ni Les Poneys Sauvages, ni Zorba le Grec. Après que ces deux romans se mettent à occuper une place de choix dans les rayons de sa bibliothèque, l'envie de posséder une maison dans les Cyclades se fera plus forte encore. C'est en Caïque, entre Antiparos et Paros, qu'elle découvre le mal de mer. Elle essaie, tant bien que mal, de fixer un point stable pour ne pas se laisser terrasser par les nausées. Ce jour-là, si des dauphins s'amusent à défier le bateau, elle ne les voit pas. Moins de 30 ans plus loin, elle a conservé le cahier dans lequel, tous les soirs, même quand elle était épuisée, elle a relaté ses journées. Aujourd'hui, elle sourit de ce qu'elle écrivait, des pensées qui étaient les siennes, de ses rêves d'avenir, de son écriture ronde, appliquée, qui exhale encore des odeurs de salle d'école primaire. La Grèce lui était apparue alors sous les traits d'un pays magnifique, mais d'une grande pauvreté qui continue à bénéficier de quelques éclats de son rayonnement passé. Toutes ces années après, elle se rappelle une terre sèche, couverte de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers, des agriculteurs rentrant chez eux au pas lent, de leurs vieilles mules étiques. Des pêcheurs, encerclés de chats sauvages, réparant les mailles de leurs filets. Elle revoit le ciel à la tombée du soleil. La nuit était si noire et si pure qu'elle avait l'impression que les étoiles devenaient accessibles. Mais jamais elle n'aurait pu imaginer que ce pays, autrefois béni des dieux, plongerait dans une telle détresse économique et sociale, que son état de survie artificielle ferait vaciller les fondements mêmes de la construction européenne. Mais si, même si elle n'est pas assez calée pour porter un regard d'économiste sur ce qui se joue en Grèce, elle a suivi de près les différentes étapes du chaos hellénique. Les banquiers, souvent cyniques, vous diront que le peuple grec est responsable, qu'il a fait le choix d'élire à sa tête des hommes politiques, prêts à tout pour gagner l'adhésion de leur pays au sein de l'Union européenne et profiter de ses largesses. Une amie qui a été en charge de mission pour l'UNICEF en Asie et en Afrique vous donnera à lire un article du Courrier international et vous ne pourrez pas faire comme si vous n'en aviez jamais pris connaissance. Cet article relate le drame vécu par certaines familles monoparentales grecques. À la faveur de la crise qui frappe la Grèce depuis octobre 2009, certaines mères élevant seules leurs enfants et ne pouvant compter sur aucun soutien familial en sont réduites à les abandonner, car elles ne peuvent plus les nourrir. On pourrait penser que c'est un conte, celui du petit pousset. Mais ce récit est vrai, et il se joue non pas en Asie ou en Afrique, mais à un tout petit peu plus de 2000 km de chez nous. Dans son dernier spectacle Enfin libre, Michel Boujna choisit de moquer la crise, de faire mentir les statistiques qui classent les Français en tête des pessimistes. Le philosophe Stéphane Hessel est devenu le grand-père spirituel de tous les indignés. Elle, après avoir lu cet article, elle est partagée entre colère, impuissance et volonté de recommencer à œuvrer au plus près de ceux qui ont besoin d'aide. Dimanche soir, elle lit cet article du Courrier international avant d'aller embrasser ses enfants. Il est court mais redoutable, les lignes se brouillent, les larmes coulent. Son aîné, du haut de ses 8 ans, lui demande ce qui la rend si triste. Elle lui raconte ce qu'elle vient de lire. Sa grande fille la serre dans ses bras, fort, très fort, et lui souffle à l'oreille. « Ne t'inquiète pas, maman, cela ne nous arrivera pas. » La petite fille a tout à fait saisi que si la maman pleure en songeant à ces femmes qui n'ont plus d'autre alternative que de confier leurs enfants à des institutions et à ces enfants qui, impuissants, voient s'éloigner une maman qui vient de leur redire leur amour inébranlable, la maman, par un jeu de miroir, a mal, comme si cela devait leur arriver à eux aussi. Numéro 3, qui partage la chambre de numéro 1, sort de son lit, un lit en fer forgé blanc dans lequel dorment tous les enfants de la famille depuis 4 générations. Il vient lui aussi se serrer contre sa maman. Le soir, elle ferme les yeux en voulant espérer que ses enfants grecs, séparés de leur maman, ne le seront que temporairement, que la crise finira par s'éloigner et que si leur génération ne connaîtra sans doute pas la période de plein emploi et d'euphorie générale attachée aux 30 glorieuses, les esprits se réformeront et le veau d'or ne sera plus cet autel sur lequel on est prêt à tout sacrifier. Alors voilà, j'ai écrit ce texte il y a 11 ans. Alors heureusement, la Grèce a su sortir de son marasme économique. Alors je sais que les armateurs, qui représentent une richesse énorme pour le pays, ont beaucoup, beaucoup contribué à l'aider à sortir de sa crise. Les pays restent très très fragiles, la France est fragile, justement, les associations nous le répètent. Il est vraiment essentiel dans la vie de ne pas se durcir, de ne pas se fermer à la tristesse des autres, de pouvoir l'accueillir du mieux qu'on peut. Alors bien sûr, quand on est fatigué, quand on est soi-même en proie à ses propres difficultés, c'est difficile. Mais voilà, l'autre, il est comme nous, vraiment comme nous. Eh bien, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une douce nuit, même si j'imagine que s'endormir après m'avoir écouté, c'est pas forcément simple. Mais voilà, on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de problème. Et il faut justement rester ouvert à la réalité du monde, faire ce qu'on peut, même parfois pas grand-chose, et aussi être capable de voir les bonnes choses. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.